vagabonde.
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 Bonjour à tous, ici César pour une nouvelle vagabonde accompagnée d'Hélène.
Bonjour à toi.
Nous allons parler de poésie et aujourd'hui de poésie dans le roman et cela prendra deux émissions. La poésie déborde partout lorsque les auteurs ont du talent. Ainsi, on la trouve à la fois dans les contes, les œuvres théâtrales, dans les œuvres spirituelles, les écrits religieux et dans les romans. Nous allons nous intéresser à ce qu'on désigne par poésie dans le roman. Concernant les écrits romanesques, deux ou trois précisions s'imposent. D'abord, chez les Romains, le mot « roman » désigne tout écrit en langue romane par opposition aux langues dites barbares. Plus tard, au Moyen Âge, le mot « roman » s'applique à tout texte en vers puis en prose contenant des aventures fabuleuses écrites en langue vulgaire, c'est-à-dire en dialecte, la langue d'Oc au sud et la langue d'Oïl au nord. Ainsi, tout le monde connaît le roman de Renard qui a eu entre autres le mérite de changer le nom de l'animal mangeur de poules. Avant, c'était le goupil, il est devenu la terreur des basse-cours sous le nom de Renard. Enfin, le roman tel qu'on l'écrit aujourd'hui doit sa notoriété aux Anglais à partir du XVIIIe siècle. Les deux plus célèbres romans de cette époque sont Robinson Crusoe de Daniel Defoe et Les Mémoires de Tom Jones d'Henry Fielding. Et beaucoup d'éditeurs connaissent Jane Austen avec des romans tels Orgueil et Préjugé, Raison et Sentiment. Dès les premières années du XIXe siècle, partout en Europe, le roman s'est développé et surtout popularisé au fur et à mesure que le nombre de personnes sachant lire augmentait. En France, nous avons d'illustres romanciers dès la première moitié du XIXe siècle. J'en citerai deux. Stendhal, 1783-1842, avec Le Rouge et le Noir, qui a pour héros Julien Sorel, et La Chartreuse de Parme, qui a pour héros Fabrice Del Dongo. Et le second romancier, Honoré de Balzac, 1799-1850, avec une centaine de nouvelles et de romans, dont Le Père Goriot, Eugénie Grandet, sans oublier son roman majeur, Les Illusions Perdues, avec comme héros romantique et tragique Lucien de Rubempré. Balzac illustre parfaitement la définition du roman telle qu'elle est donnée par l'Académie. Œuvre d'imagination en prose qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. Voilà donc le roman aux antipodes de la poésie, puisque la poésie est surtout une affaire d'inspiration qui interroge le langage ou son langage. Le roman, lui, donne une description minutieuse des événements du quotidien, une attention particulière à la chronologie, à l'environnement, aux objets, aux sentiments, à l'état d'esprit. Voici un extrait du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Julien Sorel, précepteur de la famille de Rénal, a remarqué le trouble de Madame de Rénal quand elle est en sa présence. Il décide de lui faire savoir que ce trouble est aussi le sien.
Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Il observa avec une joie qui lui ôta un poids immense de dessus la poitrine qu'elle serait fort obscure. Le ciel chargé de gros nuages, promené par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. Elle jouissait de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son amie. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra, se dit Julien, car il fait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi. Mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur, non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix, alors, était éclatante et forte.
On est en plein cœur du romanesque. Et la poésie, me direz-vous ? Ce petit extrait que nous voulons entendre est composé comme un poème. Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. L'angoisse, atroce, despotique, le terrasse. Les cloches tout à coup sonnent avec furie. Il accomplit ce qu'il s'était promis. Sa voix, de nouveau, chante. Pour résumer cette scène, j'ai utilisé les mots de Baudelaire, car il y a correspondance, encore un poème de Baudelaire, entre ces deux œuvres.
Radio Vassivière.
Vagabonde. Quittons le 19e siècle. Tournons-nous vers notre meilleur prosateur, Rabelais, 1483-1553. Rabelais a écrit donc 2 siècles avant qu'on appelle roman un roman. Et j'ai choisi Rabelais pour au moins 2 raisons. 1, c'est génial. 2, c'est génial. Première touche poétique. François Rabelais a utilisé un pseudonyme qui est un anagramme, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les lettres qui composent son nom et les a assemblées autrement. Alcofribas Nazière et aussi François Rabelais. Voici son poème d'introduction au lecteur.
Ami lecteur, qui ce livre lisez, dépouillez-vous de toute affection, et le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient mal ni affection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez. Mais sinon, en cas de rire, autre argument ne peut mon cœur élire. Voyant le deuil qui vous mine et consomme, mieux est de rire que de larmes escripir. Pour ce que rire est le propre de l'homme.
Revenons à Baudelaire, puisque Baudelaire fera une dédicace au lecteur pour introduire les flairs du mal. Cette dédicace sera publiée lors de la troisième édition, c'est-à-dire 10 ans après la condamnation du livre « Les fleurs du mal ». Les deux dédicaces, en quelque sorte, ont la même finalité. Ils savent que ce livre est un détonateur qui peut faire éclater la bien-pensance des lecteurs, alors ils les préviennent. Le leitmotiv de Baudelaire sera « Jette ce livre saturnien ».
Lecteur paisible et bucolique, sobre et naïf homme de bien, jette ce livre saturnien, orgiaque et mélancolique. Si tu n'as fait ta rhétorique chez Satan, le rusé doyen, jette. Tu n'y comprendrais rien, ou tu me croirais hystérique. Mais si, sans se laisser charmer, ton œil s'est plongé dans les gouffres, lis-moi, pour apprendre à m'aimer. Âme curieuse qui souffre, et va cherchant ton paradis, plains-moi. Sinon, je te maudis.
Revenons à Rabelais. Il a écrit 5 livres, dont 2, les plus diffusés, sont Pantagruel et Gargantua, écrits respectivement en 1532 et 1534. Pantagruel, c'est le fils, Gargantua, le père. Grand érudit, Rabelais a composé une sorte de livre polyphonique, incluant des anecdotes plus ou moins paillardes, des fables, une utopie, plusieurs parlers régionaux, dont 2 ou 3 sont imaginaires, et des poésies. Le tout visant à contrefaire l'usage que le clergé faisait de la langue. La langue rabelaisienne, crue, impertinente, fleurie, magnifique, est comme une portée de grenouille dans un panier dont le couvercle aurait disparu. Elle se rit des conventions et s'envole dans toutes les directions. Elle attrape le lecteur au vol. Aujourd'hui, on trouve des adaptations, des traductions de la langue rabelaisienne qui restituent avec plus ou moins de bonheur sa verve. Voici un repas pantagruélique. Il commençait son repas par quelques 12 de jambon, de langue de bœuf fumée, de cervelas, d'andouille. Pendant ce temps, 4 de ses gens lui jetaient dans la bouche, l'un après l'autre et sans cesse, de la moutarde à pleine pelletée. Il y a outrance chez Rabelais, jusqu'au dégoût. Il n'est, dit Gargantua, point besoin de cul torché, sinon qu'il y ait ordure. Ordure n'y peut être si on a chié. Chier donc nous faut davantage que le cul torché. Si chez Rabelais il y a outrance, surabondance, c'est pour mieux caricaturer les mœurs de son temps. On retrouve ses excès dans la nourriture, dans la boisson, la défécation, l'amour, l'irrespect de la pensée commune et la contestation de la pensée des clercs, hommes d'église censés être éclairés, au point qu'il a imaginé une utopie, l'abbaye de Thélème. On écoute l'extrait le plus célèbre.
Toute leur vie était dirigée non par les lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Toutes leurs règles tenaient en cette clause. Fais ce que voudra. Car des gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui poussent toujours vers la vertu et les éloigne du vice. C'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile suggestion ou une contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et d'enfreindre ce joug de servitude. Car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé. Grâce à cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation pour leur faire tout ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous ébattre dans les champs », tous y allaient. Ils étaient tant noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et en celles-ci composer tant en vers qu'en prose. Pour cette raison, quand le temps était venu pour l'un des habitants de cette abbaye d'en sortir, soit à la demande de ses parents ou pour une autre cause, il emmenait une des dames, celle qu'il aurait pris pour un dévot, et ils étaient mariés ensemble, et ils avaient si bien vécu à Thélem en dévotion et amitié, qu'ils continuaient d'autant mieux dans le mariage. Ainsi s'aimaient-ils à la fin de leur jour, comme au premier de leurs noces.
Radio Vassivière.
Vagabonde.
Vous conviendrez que c'est une abbaye particulière. C'est ce qu'on appelle une utopie. Le mot « utopie » vient du livre de Thomas More, « Utopia », paru en 1516. Livre qui décrit sur une île une société égalitaire, plus exactement une société où règne l'ordre, la justice et la paix, c'est-à-dire où l'arbitraire du pouvoir n'existe pas. Thomas More savait de quoi il parlait. Il avait été conseiller du roi Henri VIII pendant plus de 20 ans, avant d'être décapité en 1535. Ce sort aurait pu être réservé à Rabelais en 1546. Mais il a fui la France et il a pu revenir en grâce 3 ans plus tard et finir sa vie à Paris en 1556. Bien que tous ses livres eussent été déclarés hérétiques par les théologiens de la Sorbonne. Un dernier extrait de Gargantua.
Quoi ? Dit Grand Gousier, mon petit couillon, as-tu print au pot ? Veux que tu rimes déjà ? Ouida, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus et en rimant souvent m'en rime. Écoutez que dicte notre retrait au fianteur. Chiard, foirard, pétard, brenou, ton lard, chapard, s'espare sur nous. Or douce, mer douce, esgousse, le feu de Saint-Antoine te dare. Si tous tes trous, esclousse, tu te torches avant ton départ.
Avec Rabelais, ça ne s'arrête jamais. Toute cloche clochable, clochant dans un clocher, en clochant fait clocher par le clochatif ceux qui clochent clochablement. Cela s'appelle un virelangue, c'est-à-dire une phrase qui, par ses difficultés à la prononcer, exige un travail de diction. Terminons par quelques perles de Rabelais qui sont presque toutes devenues, à un moment ou à un autre, des adages.
Rire est le propre de l'homme. Comment pourrait-on gouverner autrui quand on ne sait pas se gouverner soi-même ? Le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde. Boire est le propre de l'homme, boire vin bon et frais, et de vin divin on devient. Buvez, afin d'éviter que la soif advienne. Il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le temps est père de vérité. Ignorance est mère de tous les maux.
Dans cette veine, Rabelais a eu plusieurs héritiers. Le dernier en date est Frédéric Dard, quand il écrit en tant que Saint-Antonio. Pour ceux qui ne connaissent pas le commissaire Saint-Antonio, voici en quelques mots son univers. Lui, Saint-Antonio, c'est le plus beau, le plus fort, le plus irrésistible auprès des dames. Mais la seule femme qu'il aime, c'est Félicie, sa mère, chez qui il revient. L'histoire finie. Il a des acolytes. Pinot dit Pinuche, qui a tout du clochard, qui serait entré au commissariat en se trompant de porte. Berrurier dit Berru, et sa femme Berthe. Le surnom le plus courant de cet homme est le Gravos. Il est aussi mal habillé que Pinot, et 100 fois plus dégueulasse. Il aime sa femme, qui est trop en chair, mais il s'en moque, car il adore les femmes dont les bourrelets débordent du chemisier. Avec ce personnage, Frédéric Dard a, comme Rabelais, inventé une langue, adapté l'argot des truands, mais que seuls peuvent comprendre les lecteurs assidus de Saint-Antonio. À la même époque, au cinéma, on se régalait devant un film dont les dialogues étaient écrits par Michel Audiard, Les Tontons Flingueurs, par exemple. C'est sans doute ce qu'il y a de plus proche de Saint-Antonio. Voici quelques bons mots de Saint-Antonio.
On ne va pas toujours rester les deux pieds dans le même stylo. Une route tobogante, des marches masturbantes. Il revenait au galop comme n'importe quel naturel chassé. Mieux vaut une chier de types qui baissent leurs pantalons en votre honneur plutôt qu'un seul qui vous le fait repasser. En littérature, l'acte essentiellement créateur, c'est l'imagination, plus le style, j'en conviens. Mais le style sans imagination, c'est une plante grimpante sans support. Au propre comme au défiguré, tous les chemins de croix mènent à l'homme.
Voilà, pour aujourd'hui, nous arrêtons là. La prochaine fois, nous reprendrons avec le roman pour voir comment la poésie infiltre d'autres écrits romanesques.